L'art d'être libre ou les bienfaits du détachement, nous retrouvons le père Joël Guibert, prêtre du diocèse de Nantes, pour un nouvel enseignement, guérir de la peur par l'abandon à la providence de Dieu. Nous écoutons le père Joël Guibert.
Lâcher nos peurs dans l'abandon à la divine providence. Je voudrais raccrocher les wagons, si vous me permettez. Vous rappelez dans le check-up, première conférence, conséquence spirituelle du péché originel, dès après le péché, la brisure de l'alliance, Dieu cherche l'homme, l'homme se cache, il a peur de Dieu. J'ai eu peur, dit Adam, Genèse 3, 8, 10. Comme ce matin, un regard sur nos peurs, et puis ensuite quelques éléments pour essayer de réguler, de diminuer ses peurs, notamment le mystère de la providence, la foi et la vie en la providence. Regard sur nos peurs. J'ai mis comme titre « nos peurs » parce qu'elles sont multiples et puis parce qu'il y a des degrés dans la peur. Vous comprenez, entre un petit souci inquiet, une inquiétude, une anxiété, une peur, de la frayeur, de la panique, ou de l'angoisse, vous voyez bien qu'il y a quelques différences. Comme pour la tristesse ce matin, la peur est certes une conséquence du péché originel. Mais en tant que telle, enseignent les pères de l'Église, elle peut être aussi bien qualifiée de vertu que de passion. Clément d'Alexandrie, si la crainte est aussi une passion, toute crainte n'est pas une passion. Vous voyez de quoi il s'agit? Il y a une peur qui peut être salutaire. Et puis deuxièmement, il y aura une peur qui est mauvaise, une mauvaise peur. Et celle-là, il faut la soigner. Peur salutaire. Si je me présente à vous avec un gourdin, comme disait Coluche, avec un visage patibulaire mais presque, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Je fais ça. Je le fais au ralenti, le temps que vous laissez. Ben vous faites ça. Peur salutaire, peur de se prendre un coup, et heureusement. Heureusement qu'on a les sens, le sensible au bout des mains. On mettrait nos mains dans le feu et on ne sentirait plus rien, on aurait les mains brûlées. Heureusement, donc, qu'il y a des peurs. Et puis, il y a ce qu'on appelle, qui n'est pas une peur, mais le don de crainte, qui, je vous signale, fait partie des sept dons du Saint-Esprit. Quelle est cette crainte? C'est pas la peur de Dieu. C'est la peur de blesser l'amour. La peur de faire de la peine. Le voilà, le don de crainte. L'Écriture dit « l'amour bannit la crainte », mais saint Augustin, commençant tout cela, dit « attention, il y aura une saine crainte qui durera jusqu'à la fin de notre vie ». Vous voyez bien, qui est la crainte de ne blesser l'amour. Mais par contre, il dit, l'amour va bannir la crainte servile. La preuve en est, c'est que je suis sûr que le peu que je sens de vos cœurs, comme ça, même si je n'ai pas parlé avec vous, enfin, je sais idiot ce que je dis, enfin, je veux dire, non, mais je veux dire, je sens un public qui a faim de Dieu, quoi. Et je suis sûr que vous avez senti déjà des évolutions dans votre foi et notamment dans le visage de Dieu que l'inconscient véhicule entre il y a 15 ans et aujourd'hui. Il y a comme une découverte progressive, par exemple, que Dieu n'est que Père. Et puis, quand on a dit ça, on ne sait pas ce qu'on dit, tellement c'est... Voilà. Vraiment, on progresse. Quand les peurs tombent, la conscience du Père très bon et très fort, augmente. Ben c'est normal. C'est la peur qui empêche le vrai visage de Dieu de se révéler. Bon, je voudrais soigner surtout la mauvaise peur. Saint Jean Chrysostome. Celui qui vit dans le péché est dans une crainte perpétuelle. « Comment expliquer cette mauvaise peur, comme pour la tristesse ce matin? Cela peut venir d'un amour démesuré de soi. Rappelez-vous toujours cette histoire d'échographie spirituelle décrite lors de la première conférence du matin de lundi, de mardi. L'homme s'est coupé de Dieu. Étant coupé de sa source, il a pris la place de Dieu. Et donc il y a une certaine obsession de soi-même. Ceci en fonction des biens terrestres, mais aussi et surtout du regard des autres. On est comme obsédé du regard des autres. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Est-ce qu'il m'aime? Comment il me voit? Enfin, ces trucs-là. Essayons de rendre davantage concret cette histoire d'amour démesuré de soi. Il peut y avoir des peurs qui sont liées à l'image de soi. Je le disais à l'instant, qu'est-ce qu'on va dire de moi si je fais ça? Aujourd'hui, une des grandes plaies de l'Église est le pas de vague. Pour ne pas déplaire, on dit rien. Et on est complice du mensonge. Regardez toutes ces histoires de pédophilie, ça nous éclate maintenant à la figure. Je n'incrimine personne et ceux qui ont fait ou ceux qui ont couvert ces affaires-là en tant qu'évêques ou cardinaux. Voilà, de toute façon, quand on choisit le monde, à un moment ou à un autre, le monde te le fera savoir. Chers amis, demandez cette grande grâce de liberté de ce qu'on pense de vous. Enfin, si je suis vraiment un cateau, pas un cateau de service, si je suis vraiment un cateau, un vrai cateau, je vais me faire... tu vas te faire railler. Mais mon père, je peux pas faire ça, tout le monde le fait. Oui, il faut se démarquer. Voilà. On va payer très rapidement dans l'Église le fait de vouloir plaire au monde, car le monde, jamais... tu lui plairas. Relisez, je disais ça dans l'histoire, la Révolution française. Les prêtres qui ont accepté la constitution civile du clergé, ils se sont dit, on ne veut pas d'histoire, on peut peut-être essayer de composer, parfait. Bon, ils ont accepté. Mais même pour eux, ça s'est terminé avec un mépris total, total. Gober le monde, c'est le monde qui te gobera. Voilà. Désolé pour l'impolitiquement correct. Pleine de vaine confiance en elle-même, l'âme s'effraie du moindre bruit et de l'ombre même des créatures. Des peurs liées à la santé. La santé est devenue une obsession contemporaine. Regardez le nombre de procès qu'on fait, pauvres médecins, d'ailleurs ça devient intraitable aujourd'hui, avec cette logique procédurière. C'est devenu une obsession. Quand mon papa a eu un cancer et que j'ai très vite senti que ça allait pas le faire, que les chimios... Je me retrouvais un jour tout seul avec lui, il était très faible. Je lui dis, papa, la médecine, c'est pas Dieu. Regardez le glissement par un petit fait très simple, presque amusant. Je veux dire de l'obsession de la santé. Et vous voyez bien, avec le transhumanisme, bientôt, ils nous prétendent qu'ils vont tuer la mort. Et le nombre de personnes qui gobent ça. Mais mes amis, s'il n'y a plus la mort sur la Terre, mais ça va devenir le pire des films de science-fiction. Soleil vert à côté, c'est de la rigolade. On n'est pas fait pour cette Terre. Et cette Terre ne peut pas nous donner le bonheur éternel qu'est le ciel. Je reviens à mon propos. Quand on était tout petit, j'habitais dans un village. Et quand arrivaient les vœux, Eh bien, dans le village, on trouvait les dames, tout ça, les voisines. Et qu'est-ce qu'on disait? Bonne année, bonne santé, et le paradis à la fin de vos jours. Et quand on n'aimait pas la voisine, on disait à la fin de l'année. Non, c'est une petite blague, bien. Et alors, et je deviens curé. Donc, vous voyez bien, entre l'enfance et être curé, je me souviens, j'étais au Pouliguen, donc j'avais une quarantaine d'années. Et là, qu'est-ce qu'on se dit? Ben, je vous raconte. Moi, j'ai horreur de faire des réveillons. C'est là où je prends une soirée beaucoup plus tranquille. Hein. Je trouve ça beaucoup plus. C'est beaucoup plus hors cadre. Et le lendemain, je vais chercher une baguette, supposons. Je vois les paroissiens. Ah, monsieur le curé! Ah, ben c'est. Et puis, bonne année, hein! Et puis, la finale, c'est quoi? Et puis, bonne santé, monsieur le curé, c'est quand même ça le plus important. Voilà. Le paradis est passé la trappe. Et la santé l'a remplacé. Les peurs liées au bien de ce monde. Le culte actuel de la consommation fait que plus on en a, plus on a peur de les perdre. Rappelez-vous l'évangile. Il a récupéré beaucoup de blé et il va construire un grenier au cas où il perdrait ce qu'il a dans le premier grenier. C'est des peurs liées au manque. Et on comprend pourquoi Jésus dit on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Attention, l'argent, ce n'est pas un truc sale. Si vous avez de l'argent, rendez grâce, il n'y a pas de problème. Ce que Jésus pointe, ce n'est pas l'argent, c'est le lien à l'argent, au sens où ça remplacerait la sécurité de Dieu. Il est bien évident que vous qui avez des familles, par exemple, mais il faut mettre de l'argent de côté, enfin quoi. C'est évident. Moi, si mes parents ne s'étaient pas sacrifiés, j'aurais pas le petit ermitage où je suis. Quand ils ont fait le partage, voilà. Et Dieu sait si papa s'est saigné, car il est parti de zéro. Bon, bien sûr, il a vécu les 30 glorieuses, donc ça a craché au bassinet. Mais on n'aurait pas tout ça, quoi. Donc, chers parents, arrêtez ces histoires, ah, j'ai de l'argent. Mais non, c'est l'utilisation qu'on en a. Et ça crée le fait que on n'a plus besoin de Dieu parce qu'on a la sécurité du lendemain, la sécurité du compte en banque. C'est ça qu'il faut demander à Jésus. Libère-moi du lien, pas de l'argent. Du lien à l'argent. Vous voyez bien ce que je veux dire dans le mot lien. Et attention, hein. C'est un curé qui vous parle et vous dites, ah oh bah ouais, mais eux, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Tu parles, on a de quoi pour vivre, hein, faut pas. Puis dans des monastères, ah oh bah les sœurs, c'est formidable, elles sont complètement dans la pauvreté. Ah bon? Quand ça m'arrive dans un monastère, je dis, à propos de la pauvreté. Est-ce que vous accepteriez, mes sœurs, que ce soit moi qui choisisse la monture de vos lunettes? On peut être accroché à tout. Une petite sœur carmélite formidable disait, il m'a fallu arriver sur la fin de ma vie pour découvrir que j'étais attaché à mon petit banc de prière. Un truc de rien. Voilà. Des choses qui viennent du manque de confiance en Dieu et qui expliquent la mauvaise peur. Le manque de confiance en Dieu est à l'origine de beaucoup de peurs. Un des psaumes, le psaume préféré de Sainte Thérèse de Lisieux, le psaume 22. Vous aimez pas ce psaume? Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien, etc., etc. C'est le psaume de confiance par excellence. Et il est dit aussi dans ce psaume, passerai-je un ravin de ténèbres? Je ne crains aucun mal parce que tu es près de moi, ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Il y a une prière que les anciens récitaient, qui, à mon avis, c'est dommage de l'avoir abandonné. Notre sécurité est dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus, frères et sœurs. Pour nous, aujourd'hui, un nom, c'est un matricule vide. Pour la Bible, le nom, c'est la personne. Quand tu dis Jésus dans ta prière, alors que tu t'ennuies à 100 sous de l'heure, ça le fait venir. Comme on dit dans les paroisses, on va faire une petite prière, mon père. Ouais, c'est toujours un jour, salut Marie, c'est toujours une petite prière. Il n'y a pas de petite prière. Quand tu dis je vous salue Marie, ça fait venir la très sainte Vierge. Le nom, notre sécurité dans le nom de Jésus. Un autre, notre cause de la peur, l'esprit de peur. Il ne s'agit pas pour moi de voir du diable partout, bien sûr, bien qu'il soit partout. Mais le mauvais est très impliqué dans les peurs. Le mauvais est en fait un spécialiste de l'aggravation et de l'exagération. Tu as un petit brin de peur et il vient te dire, mais tu ne l'entends pas que c'est lui. Tu as raison d'avoir peur et tu devrais avoir encore plus peur. Et tu l'écoutes. La peur, c'est le meilleur moyen de se décourager. Regardez le petit hérisson sur les routes la nuit. Il prend peur devant les pleins phares. Que fait-il? Il est tétanisé, il reste au milieu de la route. Meilleur moyen de se faire écraser. Un petit détour par la vie du Saint Curé d'Ars. Vous aimez le Saint Curé d'Ars? Il a des réparties. Son évêque, Monseigneur de Vie, c'est très beau. L'évêque a dû voir le mystère de sainteté derrière ce pauvre prêtre. Ne croyez pas que le curé d'Ars faisait l'unanimité le long de son, tout au long de sa vie. Hein. Comme il avait beaucoup de monde. Vous savez, la jalousie, disait un prêtre de mon diocèse, un vieux prêtre, la jalousie, la vertu la plus cultivée dans le clergé diocésain. Ça peut s'expliquer. Nous avons beaucoup de peine à nous réjouir qu'un type à côté, il ait des fruits, comme si ça nous faisait de l'ombre. Et on se sent minable, alors on entretient de la jalousie. Et donc le curé d'Ars était objet de jalousie énorme de la part de ses confrères. Surtout qu'en plus, vous devinez, aucun diplôme, le type pas crédible. Et Monseigneur de Vie, lui, devait être du bon Dieu, hein, cet évêque. Il a senti, celui-là, il n'est pas comme les autres. Et donc, on commence à savoir qu'il a des attaques du grappin, comme il l'appelait, la nuit. Et ce n'était pas tendre, hein. Je vous en raconte juste une. Il entendait des bruits terribles la nuit. Mais des bruits à faire peur, hein, par définition. Et il a demandé à un paroissien qui s'appelait peut-être pas Schwarzenegger, mais il devait être un petit peu baraqué. Il est venu avec un fusil. Le gars, il a fait une nuit, le baraqué. Il a entendu les bruits, il a tellement entendu les bruits, taille la route. Et le pauvre curé d'Ars est resté tout seul avec ses bruits. Non, c'était pas tendre. Qu'est-ce que faisait le diable avec ses bruits? Il voulait lui faire perdre son sommeil, le troubler, afin que le lendemain, comme il avait de grosses journées, il doute d'être capable de faire son travail. Et Monseigneur de Vie dit au Saint Curé d'Ars, quelle humilité de la part de l'évêque vis-à-vis de son prêtre, à qui quelque part il demande un conseil. Il lui dit, à quoi avez-vous reconnu que c'était le diable? Réponse du Saint Curé d'Ars, massive de simplicité. J'ai juste dit que c'était le démon parce que j'avais peur. Le bon Dieu, lui, ne fait pas peur. Et la finale est très intéressante. Jean-Marie Vianney a très vite, puisqu'il est saint, décodé l'action du diable. Il n'y a aucune action du diable qui ne soit pas permise par Dieu. Voilà un motif de sécurité. Le diable est le chien du bon Dieu. Quand il permet qu'il agisse, c'est toujours en vue d'un plus grand bien. Et donc, il faut aller vers le victorieux du mal. Jean-Marie Vianney, donc, comprit très rapidement que le diable, quand il l'attaquait la nuit, et plus il l'attaquait, c'est parce que le lendemain, au confessionnal, ça allait cracher au bassinet, il allait avoir de gros, gros poissons. Et voici ce qu'il disait, le curé d'Ars. C'est là qu'on voit le retournement. Les saints ont vraiment beaucoup, beaucoup d'humour. Avec le diable, nous sommes devenus quasiment camarades, qu'il dit. Le grappin est bien bête, il m'annonce la nuit en me tracassant lui-même l'arrivée des grands pêcheurs que je vais récupérer le lendemain. Plus il était attaqué, plus il savait que le lendemain, la moisson allait être abondante. Vous ne trouvez pas ça? Comment voulez-vous ne pas vous attacher à ce saint curé d'Ars? Alors, une précaution d'emploi. Vous savez, comme les médicaments, hein, c'est marqué précaution d'emploi. Je voudrais enfoncer le clou. Je vous ai dit, il faut beaucoup de temps pour guérir de la tristesse. Précaution d'emploi pour la peur. L'action de l'Esprit-Saint dans une âme qui s'abandonne à l'Esprit-Saint aura un réel impact sur les peurs. Moi, je le sais dans ma chair. Je suis un peureux que Dieu a pacifié. Et comme j'en suis qu'au début, voilà. Mais vraiment, je vous le dis. Hein. Je vais vous raconter des petits trucs tout à l'heure, peut-être, si ça vient comme ça. Donc, l'Esprit Saint, une vie dans l'emprise de l'Esprit, sous l'emprise de l'Esprit, aura un impact réel sur ses sentiments douloureux d'inquiétude. Mais, chers amis, vous voyez où je veux en venir, précaution d'emploi, ça ne disparaîtra jamais totalement de l'existence. Pour te maintenir petit. Deuxièmement, parce que ces racines-là sont très profondes. Autre précision. Cela ne veut pas dire qu'en passant par l'emprise de l'esprit, tu ne dois jamais aller voir éventuellement des médecins de la terre qui pourraient t'aider dans certaines périodes très difficiles. Je ne sais pas quoi, une aide par ton médecin, une aide thérapeutique, psychologique. Saint François de Sales, très équilibré, dit « Si je tombe malade d'une fièvre, réaction de foi, je vois en cet événement le bon plaisir divin. Dieu veut que je le vive, il le permet. Et donc je dois devenir indifférente à ma santé et à la maladie. Mais la volonté de Dieu signifiée est que j'appelle le médecin et que j'applique avec tous les remèdes que je puis. » Est-ce que ça va? Voyez le grand équilibre. À la fois abandon et en même temps utilisation des moyens humains. Quand c'est possible. Une autre précaution d'emploi. L'anxiété n'est jamais un état dont je serai victime, point à la ligne. Il peut se glisser une part de complicité. J'entretiens la peur. Il faut accepter, cela demande un peu d'humilité, de débusquer nos complicités avec ce qu'on appelle, à mon avis, de manière exagérée, les blessures aujourd'hui. On finit par se demander si tout n'est pas blessure. Ben non, il y a du péché. Écoutez, j'ai trouvé chez un psychanalyste, je crois que c'est Jacques Arène, par exemple, il dit, quand on a subi des choses difficiles dans le passé, dans l'enfance, bien sûr qu'on en est victime, mais attention, on peut créer des mécanismes de défense qui vont faire que je vais être complice et augmenter le problème. C'est jamais, les autres c'est des méchants et moi je suis le gentil. Il y a du méchant dans le gentil que je suis. Une dernière considération sur ce point. Au lieu de considérer les peurs comme un ennemi numéro un, ne vaudrait-il pas plutôt l'envisager comme un allié? J'ai fait du sport un peu violent dans une autre vie. Mais il n'y avait rien de plus excitant que d'être derrière une grille de départ et que vous êtes 30 coureurs et qu'au prochain virage, vous devez être devant. Vous avez le cœur qui bat à 150, c'est hyper excitant. Bon, vous inquiétez pas, je ne fais plus tout ça. Hein. Mais que vous disent les sportifs de haut niveau, mais c'est l'adrénaline qui nous fait... voilà. Et donc, transposer pour la vie spirituelle. Bien sûr qu'il faut lutter contre les peurs, mais et si les peurs étaient un allié? Pourquoi? Mais dans quel sens? Mais parce que ça t'oblige à te jeter en Dieu. C'est tellement inconfortable et insupportable. Et même parvenu à un haut degré de sainteté, il restera des peurs. Pourquoi? Chez les saints, il les fait entrer dans son mystère Dieu, et ce mystère est terra incognita, des terres inconnues, tu perds pied. Quand tu vas avancer dans la vie en Dieu, tu crois que tu sais, tu découvres que tu ne sais pas, et il va te faire franchir des pas, et à chaque fois, tu sais l'inconnu, quoi. Je prends un témoin, Marthe Robin. Quel craintif effroi, dit-elle, éprouve la pauvre nature lorsque, après une prière calme, apaisante, cette âme se sent tout à coup fortement saisie par le mystère de Dieu. Dieu fond sur l'âme, l'emporte très haut dans une clarté délicieuse et éblouissante. L'âme a besoin et doit donc montrer une très grande confiance, beaucoup de courage pour s'abandonner. Vous voyez que j'avais peut-être pas tort avec ma petite taquinerie sur la prière de Charles de Foucault, sur « Je m'abandonne à toi ». Elle ajoute « Il faut à ce moment-là repousser les craintes, où l'on croit que la vie, la raison sont en danger. On se demande si on ne va pas tomber fou. » Ça ne dure pas longtemps parce que Dieu est bon. Ce qui arrête mes élans, c'est bien cela. J'ai peur à avoir à me jeter dans l'abîme du cœur de Dieu qui est sans limite. Bon, ça donne le vertige, je vous accorde. Mais dites-vous bien une chose, chers amis, que nous ferons du purgatoire, pas pour nous punir, mais pour que nous osions croire à ce mystère insondable du cœur de Dieu. Nous ferons du purgatoire non pas pour que Dieu nous punisse et se venge, nous ferons du purgatoire pour qu'il adapte notre cœur, pour qu'il devienne aux dimensions du Sacré-Cœur. Ça ne te rend pas désirable le purgatoire, non? Au cas où. Deuxième grande partie, la confiance en la Providence, un puissant remède à la peur. Qu'est-ce que c'est la Providence? C'est pas une assurance pour les fins de mois. La Providence, pour moi, c'est avec le dogme de la communion des saints, cela me semble être le mystère le plus bouleversant de notre vie chrétienne, de notre foi chrétienne. La Providence, c'est quoi, nous dit François de Sales? C'est qu'il n'y a pas un seul détail, tu m'entends ? Détail de ta vie qui échappe au plan de Dieu. L'Écriture dit, il n'y a pas un cheveu de votre tête qui tombe. Les frères le savent, ils sont rasés. Il n'y a pas un cheveu de votre tête qui tombe sans que votre Père le sache. Et tu comprends le fameux hasard? C'est un mot inventé, comme dit un scientifique, par les athées pour nous faire croire que ça va remplacer Dieu. Il n'y a pas de hasard. Pour nous, c'est des hasards, du hasard. Mais pour Dieu, il poursuit son plan. Je vous avoue que c'est un mystère bouleversant, parce que moi, je vous avoue que après la conversion vécue 15 ans après avoir été ordonné, vous voyez bien, c'est vraiment graduel. Je ne sais pas, je dis ça un peu comme ça à la volée. Mettons 5-6 ans après, il y a eu cette découverte-là. Alors, que se passe-t-il dans ta vie? Ben, tu commences à être attentif aux moindres détails de ta vie et t'arrêtes de les subir ou de penser que tu es pris dans les mâchoires d'un destin à
aveugle et froid.
Tu te rappelles les inconnus ? Descends, c'est ton destin. Le dessein de Dieu qui passe dans les détails. Chers amis, quand on va arriver au ciel, et dit saint Thomas d'Aquin, à la résurrection générale, Jésus va faire éclater le plan providentiel qu'il a eu sur le monde et sur nos vies. Et on va dire, oh, c'est pas possible, telle épreuve sur laquelle je me suis bloqué, tu t'en es servi, Jésus, ça a fait ça. On va aller d'étonnement en étonnement. Autant commencer maintenant. Ce que dit saint Augustin, ayez des yeux chrétiens, c'est-à-dire arrêtez de regarder les événements en les subissant, choisissez-les avec Dieu. Pie XII. Tous les événements de l'histoire se déroulent selon la volonté ou la permission de la divine providence et Dieu atteint dans l'histoire ses objectifs. Est-ce que ça vous aide à comprendre pourquoi dès le début de notre retraite, je vous ai parlé sans gêne et pas pour vous faire peur que la barque du monde tangue un peu, que la barque de l'Église tangue un peu. Moi qui suis peureux. Mais c'est parce que même le fait que ça tangue, ça fait partie du plan de Dieu. Moi, ce que je découvre, c'est que les gens, quand tu leur parles de ça, tu vois très vite leur âme. Ils viennent te dire... Vous n'êtes pas un peu pessimiste, mon père ? Ou un autre ? Vous n'êtes pas trop optimiste, mon père ? Ils sont dans une logique d'optimiste et pessimiste. Ils ne sont pas dans une logique d'espérance, c'est-à-dire d'abandon à la providence. Le fait, par exemple, dans le rural, il n'y a plus de prêtres. Bon, si vous êtes à Paris, vous comprenez, ils n'ont pas trop de problèmes de prêtres. Mais allez donc dire à un prêtre du rural si c'est pas difficile actuellement, si la barque tangue pas un peu. Et ça fait partie du plan de Dieu. La pauvreté. Et je parle pas des histoires de morale infecte, pourriture qu'on entend régulièrement à la télévision sur des hommes d'église. Je parle de l'effondrement de la foi que certains évêques osent dire quand ils parlent à la retraite. Je pense à un évêque récemment qui est parti à la retraite, qui a parlé très simplement de tout ça. Voilà. Mais si vous êtes, vous comprenez, si vous êtes installé, mais chevillé dans la foi en la providence, vous comprenez que la situation actuelle, c'est pas la cata. Vous ne regardez pas les choses avec des yeux humains. Vous regardez les choses avec des yeux divins. Nos frères, ils sont que 4, 3. Bon, faut être fou pour entrer ici. Mais c'est des fous. Ils ont le droit d'être fous. Accordez-leur d'être fous. Et ils veulent vivre. Ah, moi, je pressens. Hein. Sinon, faut partir, quoi. Je pressens que vous êtes habités par cela. Et vous vous dites, Dieu, c'est ton œuvre. Si ça doit se faire, ça se fera. Et moi, c'est pareil pour mon histoire avec mes vidéos... que j'essaye de passer. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit à un moment. J'ai senti il y a quelques mois une inspiration. Faut enregistrer des retraites sur Internet pour que ça soit accessible. J'y connais rien à tous ces moyens-là. Ben, j'ai dit, Jésus, tu vas mettre quelqu'un sur ma route. Puis maintenant, il reste juste un petit segment. Le truc YouTube est fait. Voilà. Je le laisse faire. Mais je précipite pas les choses. Quel est notre problème ? C'est qu'on précipite. T'as intérêt de Dieu. Tout de suite, maintenant. Il n'est pas pressé pour les frères. Mais parce que qu'est-ce qu'il veut ? Ben, c'est les fondations, je vous signale. Et les fondations, c'est aucun appui. C'est ce que m'a dit quelqu'un. Mon père, si vous voulez faire l'œuvre de Dieu, faut aucun appui. Ça ne veut pas dire de ne pas demander conseil, ça ne veut pas dire pour un prêtre être désobéissant à son évêque. Non, ce n'est pas ça. Il faut être obéissant. Mais aucun appui. Que Dieu comme appui. Quand je vois les photos de votre chapelle, à tout vent, avec de la tôle, tout se barrait, Quand je vois tout ce que vous avez mis comme photo pour la construction et comment c'est beau, quoi. Enfin, vous êtes tous touchés par la beauté de cette petite chapelle qui est magnifique, quoi. Ça sent le bon Dieu. La Providence, un mystère à vivre, pas simplement à croire. À vivre parce qu'il est à croire. À croire parce qu'il est à vivre. Je vais essayer de le décliner en plusieurs affirmations. La Providence me dit tout d'abord un Dieu qui me porte. Et note bien, me porte, pour pas dire y porte vaguement. Me, toi. Il y a une parole de l'Écriture de Jésus qui me touche beaucoup pour le thème que nous essayons de développer. Je pense à vous, chers parents, qui par exemple vous inquiétez légitimement pour vos enfants, je sais pas quoi, leur santé, leurs études, l'avenir, tout ça. Dans le couple, en communauté, tout ce que vous voulez. Il y a une parole qui est extrêmement sécurisante. Nul ne peut arracher les enfants qui sont dans la main de mon Père. Quand tu t'inquiètes, en fait, tu les retires de la main du Père. Même s'ils sont dans des chemins de traverse, qui tombent dans la drogue ou je ne sais pas quoi, ils sont quand même dans la main du Père. Vis-tu en tant que parent à ce niveau-là? Ou vis-tu comme si tu étais et le papa et la maman et le Dieu de tes enfants? Tu n'es que leur procréateur. Vos enfants vous sont prêtés par Dieu, si j'ose la formule. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes rien, chers parents. Ce qui m'intéresse, c'est votre paix. Et votre paix, vous l'aurez quand vous vous tiendrez à votre place. Dieu est Dieu de vos enfants. Vous ne pouvez pas donner Dieu à vos enfants. Vous ne pouvez être que poteau indicateur. Et le Père Joël ne peut pas vous donner Dieu. Il ne peut être qu'un poteau indicateur. J'espère le moins mauvais possible, mais je ne suis et vous n'êtes qu'un poteau indicateur. Pour vous montrer comment un Dieu qui me porte peut déjà bouleverser la vie, je peux donner ce témoignage puisque la personne en question, qui est toujours vivante, m'a donné son autorisation et a témoigné elle-même publiquement. Dans la paroisse où j'étais, il y avait une jeune dame qui boitait. Alors je me dis, tiens, qu'est-ce qu'elle a? Voilà. Et puis au bout d'un moment, elle m'a raconté son témoignage, qu'elle a après raconté à tout le monde. Et donc, cette jeune femme, je ne suis pas très compétent au niveau médical, mais elle a un problème à la hanche, et un gros problème, et elle a subi des foultitudes d'opérations, et les greffes ne prennent pas, ça se déchire. Enfin, ceux qui sont médecins parmi vous comprennent ces choses-là mieux que moi. Cette jeune femme a été éduquée chrétiennement par ses parents, comme un certain nombre, elle a tout abandonné à l'adolescence, et Dieu s'est exit de sa vie. Elle subit une énième opération et elle se trouve en convalescence dans sa chambre. Elles sont deux. Il y a une dame chrétienne qui est à côté d'elle et qui reçoit le service de l'aumônerie. La sœur religieuse qui lui apporte la communion entre dans la chambre, est délicate avec la jeune femme qui est à côté et lui dit « Voilà, j'apporte les services de l'aumônerie, je m'excuse. Hein, mais faites, ma sœur, pas de problème. » Donne la communion à la malade qui est à côté d'elle. Et voyant que la réflexion de la jeune femme, qui n'était pas hostile, qui a été vraiment très délicate, en sortant, la religieuse lui dit « Je me permets, ça vous intéresserait peut-être les services de l'aumônerie ?» Et la jeune femme répond tout aussi délicatement « ma sœur, vous êtes vraiment très gentille. Mais non, vous savez, je suis désolé de vous dire, tout ça c'est loin. Je ne suis pas contre, mais c'est loin. » La religieuse ne s'en rend pas compte. En refermant la porte, elle dit très délicatement à cette parole tout aussi délicate, elle lui dit quand même « Vous savez, il est là quand même en montrant son cœur. Et elle s'en va avec un grand sourire. Et elle ne réalise pas que dans l'instant, la jeune femme allongée sur son lit était automatiquement visitée par Dieu, qui l'a retournée. Elle ne pouvait pas se marier. Elle était une femme de solitude douloureuse, etc. Et là, elle découvre qu'elle a un époux à l'intérieur d'elle-même, Dieu. La parole innocente, quasiment insignifiante, de la religieuse, la retourne comme une crêpe et elle retrouve la foi. Et vous devinez ce genre d'itinéraire, ça ne se suffit pas de la messe du dimanche. Ils ont faim, généralement. Donc ces messes quotidiennes, ça achète du bréviaire. Ça dit le chapelet. Et elle me disait, à partir de là, je ne me suis plus jamais senti seul. Il me porte, il est à l'intérieur de moi. Avançons. Je vous ai dit un Dieu qui me porte. Deuxièmement, un Dieu non pas qui me porte, mais un Dieu qui m'emporte. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il m'emporte selon un plan providentiel qu'il a sur chacune de nos vies et qui est ciselé pour chacune de nos vies et adapté à chacune de nos vies. Non seulement nous sommes portés par le Dieu créateur, mais nous sommes emportés par le Dieu providence qui, si je me joins, si je m'ajuste à son plan, il va le déployer. Mais tout est entre tes mains. Tout dépend de ton oui. Tout dépend de l'ajustement de ta volonté au plan providentiel de Dieu sur ta vie, qui passera par des choses qui te plaisent et des choses qui ne te plaisent pas. J'aime beaucoup votre prière après l'office de milieu du jour. Rappelez-moi, Père Yann-Marie, les événements qui nous plaisent.
Saint-Joseph. Même dans les contretemps et les incompréhensions.
Voilà. Même dans les contretemps et les incompréhensions. C'est surtout là que vous apprendrez, parce que ça mettra par terre votre mode de fonctionnement, de construction humaine, pour entrer et vous lâcher dans le plan de Dieu qui est divin. Avançons. Troisième note de ce Dieu au visage providentiel. C'est rien d'autre que de parler du Père, hein, quand on parle du plan providentiel. Un Dieu qui s'intéresse à moi. Je suis frappé d'une chose, je l'étais quand j'étais curé et qu'on accueille forcément à un moment ou un autre des gens qui se convertissent. Vous inquiétez pas, ils venaient pas de ma paroisse, moi j'arrivais pas à les convertir. Non, ils venaient des paroisses à côté, parce que des fois c'est plus facile de parler à un prêtre qu'on voit pas. Donc, ils venaient, bon. Et puis parfois, il y a des conversions qu'un certain nombre de prêtres, malheureusement, ont de la peine à comprendre et à accueillir. Bon, c'est ainsi. Et moi, ce qui me frappait en les entendant, je n'avais pas besoin de leur demander. C'était ceci. Il disait, c'est fou, mon père. Je passe d'un Dieu lointain à un Dieu à fleur de terre. Il y a des fausses images de Dieu qui tombent. Lesquelles? Un Dieu qui... Notre Père qui est aux cieux? Oui, mais c'est sur quel nuage qu'il est? Il est tellement loin dans ses cieux. Et les conversions... C'est des conversions aussi aux images de Dieu. La personne se découvre tendrement aimée d'un Dieu extrêmement proche, tout en demeurant le souverain maître du monde. Une humilité mal placée, chers retraitants, voudrait nous convaincre que développer une union profondément intime avec le Christ serait de l'égoïsme. N'hésitez pas à développer une relation éminemment personnelle. Un Dieu qui s'intéresse à moi. cette semaine, si vous m'autorisez l'expression, développer un saint égoïsme. Celui-là, vous pouvez consommer sans modération. Moi et Jésus. Newman, mon créateur et moi. Alors vous allez me dire, c'est un peu égoïste, mon père. Parce que tu ne dois pas trop savoir ce que c'est, alors, pour dire des choses comme ça. Plus la relation est personnelle, plus, si elle est de Dieu, elle sera communautaire. Mais on a tellement dit dans l'Église qu'il fallait faire Église, en Église, tous ces baratins, en laissant de côté la relation éminemment personnelle, comme s'il y avait un soupçon à porter sur la relation éminemment personnelle, eh bien on a fabriqué des foies évanescentes. Plus on s'approche du cœur de Dieu, étant donné que c'est du feu, on ne peut pas le garder, ça nous sort de nos sacristies. C'est un critère de l'expérience authentique de Dieu. Il pousse vers les autres, mais pas pousser vers les autres pour au détriment de la relation personnelle à Jésus, pour la nourrir. Est-ce que ça va ? Petite Thérèse, elle, elle n'a aucun complexe avec ça. Elle dit à un moment, « Moi, je ne vois pas le Sacré-Cœur comme tout le monde. » Ah bon, petite prétentieuse ? Elle va nous en dire davantage. « Je pense que le cœur de mon époux est à moi seul. » Comme le mien est à lui seul, et je lui parle dans la solitude de ce délicieux cœur à cœur, en attendant de le contempler un jour face à face. Mes frères et sœurs, quand je suis allé en Afrique pendant 2 ans, dans cette église en tôle à Saint-Michel d'Adjamé à Abidjan, avec tous ces pauvres qui venaient, des fois, les femmes, les vieilles, comme ils disaient là-bas, levées à 5 heures parce qu'elles nettoyaient la case et faisaient des kilomètres à pied. Et là, moi, j'étais pas prêtre, j'étais séminariste, donc j'étais avec les gens. Et j'entendais les vieux, vous savez, qui ont été formés par les premiers missionnaires, qui avaient la foi chevillée. Quand le prêtre élevait le corps du Christ, vous entendiez une voix participée par tout le monde, avec l'accent africain, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Et le petit qui était à côté de moi, qui était un musulman, il se mettait, lui, la face contre terre à la consécration. N'hésite pas à dire « Mon Jésus !» Vous rappelez ce que dit Thérèse d'Avila ? C'est magnifique. À un moment, Jésus lui apparaît et il lui dit « Qui es-tu ? » « Ben, je suis Thérèse de Jésus, c'est son nom. » Et Jésus lui répond « Et moi, je suis le Jésus de Thérèse. » Que c'est magnifique. Tout à l'heure, on va aller à l'adoration. Je voudrais que vous laissiez résonner cette parole que vous transposez pour votre nom, votre prénom. Je suis le Jésus de Siméon, d'Anne, de Clara, je ne sais. Avançons, parce que c'est pas fini, la bonne nouvelle. Non seulement un Dieu qui s'intéresse à moi, mais là, ça donne du vertige, je l'ai ébauché, un Dieu qui fait dans le détail. Beaucoup de catholiques pensent que Dieu, pardonnez-moi le slogan un peu vendeur, que leur visage de Dieu, c'est un Dieu grossiste, qu'il agirait en gros dans leur vie, aux grandes étapes de leur vie. Ouais, à un moment, je me suis demandé si j'allais être prêtre ou marié, je me suis demandé si j'allais être religieuse ou marié, etc. Où allaient les grands virages de l'existence? Dieu n'est pas un grossiste, c'est un détaillant. Et il te livre en détail. Il s'intéresse aux détails. Quand tu auras ça chevillé au cœur, que Dieu s'intéresse aux détails de ta vie, toi-même tu seras attentif aux détails que tu vis. Et ça changera tout dans ta vie. Pour moi, la parole la plus bouleversante de Thérèse de Lisieux. Je vais la dire maintenant, puis après, je noterai le catéchisme pour vous montrer que tout ça, ça tient la route. La parole pour moi la plus bouleversante de Thérèse, c'est ça qui est un peu... vous voyez, on progresse vraiment par étapes. Moi, ça a été une étape très importante, plus récente encore. Ouais. Elle dit, plus que jamais... Elle écrit ça, je crois, dans le manuscrit C. Ça veut dire que c'est sur la fin de sa vie. Donc, ça veut dire qu'il y a une conscience plus forte, puisqu'elle dit, plus que jamais, je comprends que... Une conscience accrue des choses. Et de quoi ? Plus que jamais, je comprends que les plus petits événements de notre vie sont conduits par Dieu. Il ne faut voir que lui en tout. Quand j'ai reçu le SMS de Air France annonçant une grève, j'ai voulu vivre ce détail en Dieu. Donc j'ai coupé court. Et c'est étonnant, moi qui suis facilement inquiet, je vois bien qu'il y a des choses qui se sont produites. Car, pof, ça s'est enlevé très rapidement. Et après, avec notre histoire de 205, je crois que là, ça se passait trop bien. Il nous a éprouvés. Comme ça. On ne peut pas tout vous dire, mais Siméon vous le dira lui-même. C'est étonnant. Vous auriez vu le bruit d'enfer sur l'autoroute. Je croyais que la voiture allait exploser. Je dis au frère Simon, non, non, arrêtez de rouler si vite, quoi. Bon, on prend la bretelle, quoi. Faut qu'on roule à 80, on va voir ce que ça donne. Et même à 80, à 70, le truc, ça demeurait encore. Et à un moment, on s'est planté, parce que moi, j'étais tellement troublé. J'étais sorti de mon abandon. Bah, bien sûr, je ne vais pas vous le dire le contraire. Une catastrophe. C'est pas grave, on s'en remet en selle. Bien. Et donc, il me dit, le GPS, il dit, faites demi-tour. Je dis, on s'est planté. Il fait, hein, frère Siméon, vous pouvez en témoigner. Il fait un il tourne, voilà, et le truc a disparu. Et après, j'ai été habité, non, on va pas déranger le frère Yann-Marie, je suis sûr qu'on va y arriver. La voiture va nous amener, mais vous auriez entendu le bruit du truc. Je peux... Non, mais vraiment, je vous fais pas un cinéma. Voilà, si vous vous préparez à impliquer Dieu dans les détails, vous ne serez pas compris de vos frères et sœurs. Ils vous diront, t'es pas un peu du genre plastique perdrant, ça plane pour moi. Ils vous diront, vous n'avez pas les pieds sur terre, il faut vous attendre à ça. Ils vous diront que vous êtes dans un délire. Vous les laisserez parler, vous les bénirez. La parole du catéchisme, 303. Le témoignage de l'Écriture est unanime. La sollicitude de la divine providence est concrète, immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire. Quelle espérance! Quel horizon cela ouvre! Et je termine, car il est l'heure. Et comment on fait avec les épreuves? Là est le difficile. La providence, elle est là-dedans. Je dirais deux choses. Tout d'abord, Dieu ne veut jamais le mal. Mais dans sa providence, dit l'Église, et vous trouverez des paroles comme cela chez Benoît XVI dans son bouquin « Voici quel est votre Dieu ». Il reprend en gros du Saint-Augustin, qui lui-même est repris par Thomas d'Aquin, à savoir que Dieu ne veut jamais le mal, mais qu'il est capable de se servir d'un mal qu'il ne veut jamais directement en vue d'un plus grand bien. Et là, ça ouvre des horizons insoupçonnés, pacifiants, enthousiasmants. Et comme il est l'heure, je termine par un petit témoignage. J'ai reçu une lettre d'une dame que j'ai jamais rencontrée, que j'ai jamais vue. Cette dame faisait partie d'un certain milieu et ils avaient un peu d'argent et une petite entreprise formidable. Et lui, je crois que dans la crise de 2008, il a dû mettre la clé sous la porte, faillite. Elle est une chrétienne convaincue lui aussi. Et elle tombe petit à petit dans une petite déprime qui se transforme en grande déprime. Et elle ne sait pas d'où ça vient. Elle est en position fœtale toute la journée, sur son lit. Vous imaginez le mari, chaumedu, il doit faire la cuisine, s'occuper des enfants. Et ne pas culpabiliser son épouse qui n'est pas bien. Elle n'est pas bien, bien sûr, elle est suivie par un médecin. Et puis un jour, elle a des amis de la paroisse. Et c'est pour ça qu'elle m'envoie ce petit mot qui m'a bouleversé, que j'ai gardé, bien sûr. Et donc, une paroissienne, amie à elle, très intime, vient la voir et lui dit « Oh, écoute, faut que tu t'en sortes. Écoute, je viens de lire un livre, ça s'appelle « Renaître d'en haut ». Et elle lui met sur son « lit, tu vas voir, ça peut te faire du bien ». Et la dame qui m'écrit me dit « Vous savez, quand j'ai reçu votre livre, quand on n'est pas bien, on n'est vraiment pas bien, et le religieux, on n'en a pas trop envie ». Mais elle l'avait constamment sur sa table de nuit. Et au bout d'un moment, au bout de quelques jours, elle dit « Bon, je vais voir, quoi ». Et elle ouvre. Et là, elle me dit « Voilà, ce qui m'a bouleversé, ça fait comme une épée. Vous avez dit à un moment, dans votre livre, que Dieu est tellement puissant et tellement amour qu'il est capable de se servir d'une situation qui paraît une impasse, en vue d'un plus grand bien. » Et là, elle a eu un déclic. Le lendemain, elle était debout et recommençait à faire la cuisine. Quelques jours après, bien sûr avec l'accord de son médecin, elle diminuait les médocs. Quelques semaines après, elle retrouvait la joie. Quelques mois après, elle voyait le problème. Sa dépression venait de l'humiliation que le mari a été obligé de fermer sa petite entreprise, car dans son milieu, ça ne se pardonne pas. Elle est donc sortie de sa dépression extrêmement libre par rapport à ce qu'on pense de nous et ce qu'on pense de moi. Elle a fait d'une pierre trois coups.
L'art d'être libre ou les bienfaits du détachement, vous venez de suivre un nouvel enseignement du père Joël Guibert, prêtre du diocèse de Nantes, intitulé « Guérir de la peur par l'abandon à la providence de Dieu ». Le père Joël Guibert a édité un ouvrage intitulé « L'art d'être libre, les bienfaits du détachement » aux éditions de l'Emmanuel.